Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Manger équilibré, si j'en ai pas l'habitude, si j'ai pas cette démarche-là depuis longtemps ou qu'on me l'a pas apprise, hein, tout simplement, les transmissions familiales, c'est extrêmement important, ben, je vais prendre ça comme une contrainte. Une contrainte, ça va devoir changer mes habitudes. Donc, ben, dans l'idéal, intellectuellement, j'aimerais pouvoir manger équilibré, mais finalement, ben, je reste dans ce flow et puis ben, ça me crée un malaise un petit peu au fond de moi. Donc ça aussi, c'est un peu des fois gênant. L'autre chose aussi, c'est ce qu'on remarque, c'est que les personnes font de moins en moins de repas maison.
C'est vrai.
Et ça, on aura beau dire, on aura beau faire, les repas maison, c'est ce qui coûtera toujours le moins cher.
Hello, je suis Isadora.
Et moi, Marisa.
Bienvenue sur le podcast Intention. Avec ce podcast, notre intention est de vous mener à la voie de l'épanouissement personnel et professionnel.
Ici, on parlera alimentation saine, entrepreneuriat et développement personnel. Si vous ne nous connaissez pas encore, le moment est venu de faire les présentations.
Nous sommes des sœurs jumelles, entrepreneurs depuis plusieurs années, et nous sommes aujourd'hui à la tête de l'entreprise Intention, une plateforme en ligne dont l'ambition est de vous guider vers une alimentation plus saine.
N'hésitez pas également à nous rejoindre sur notre chaîne YouTube Isadora et Marisa pour découvrir toutes nos vidéos recettes ainsi que nos conseils et astuces pour vivre un healthy lifestyle.
Maintenant que les présentations sont faites, c'est parti pour cet épisode qui, on l'espère, vous inspirera à vivre la vie que vous méritez.
Bonne écoute.
Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode. Alors, comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui, on va parler d'alimentation et de budget. Je pense que ce sont deux termes que les gens adorent. Vous adorez quand on parle d'alimentation et on adore quand on parle de budget. Donc là, je ne suis pas toute seule, je suis avec Karine. Karine qui est notre sœur, diététicienne nutritionniste.
Coucou.
Donc pour ceux et celles qui ne la connaissent pas ou qui ne connaissent pas ce podcast, Karine travaille avec nous sur Intention, c'est donc une plateforme en ligne, une plateforme digitale dans laquelle on vous accompagne, on vous guide vers une alimentation plus saine. Donc Karine, eh ben c'est l'experte de cette plateforme. Et aujourd'hui, je lui ai demandé si on pouvait parler ensemble d'alimentation et du budget. J'aurais peut-être pu le faire toute seule, mais vous le savez, moi j'aime bien avoir quand même l'expertise d'une experte, tout bête. Et je pense qu'elle a beaucoup de choses à dire et j'ai vu un petit peu les notes et je trouve que c'est passionnant. C'est vrai en plus que je vous avais parlé il y a quelques semaines, moi, sur YouTube, du fait que j'essaie maintenant de regarder un petit peu mon budget par rapport à l'alimentation, qui est très important, je trouve, mon budget d'alimentation, alors qu'en fait, il pourrait être revu à la baisse. Et ça a été quelque chose qui vous a énormément parlé. J'ai reçu beaucoup de messages, mais Isadora, comment on fait? On peut pas manger sainement quand on a un petit budget, etc. Donc, je pense que qui de mieux pourrait parler de ce sujet. Donc, ma première question, Karine, attention, c'est déjà pourquoi, selon toi, quand on parle d'alimentation et de budget, les gens, finalement, ça les préoccupe?
Alors, il y a plusieurs critères. Il y a si on voit dans ce que tu viens de dire, il y a le mot alimentation et il y a le mot budget. Alors, l'alimentation va être une préoccupation parce que je pense que nul doute aujourd'hui que l'alimentation est un des gros facteurs déterminants de notre santé. Et budget parce que on vit aussi dans un monde social où on pense que voilà les salaires ont diminué, la vie a augmenté, etc. Ce qui est une réalité pour certaines choses et pas d'autres, et que du coup quand on met les deux côte à côte, on se dit finalement je dois manger bien pour être en bonne santé, mais j'ai moins de budget parce que je dois payer d'autres choses. Donc on va quand même faire un petit rappel sur ce qu'est la santé quand même, parce que je pense que c'est intéressant. La définition donc de la santé, on va prendre celle de l'OMS que j'aime beaucoup et je trouve que c'est une réalité, c'est que la santé, c'est pas juste je suis pas malade. La définition, donc je vais vous la lire, la définition de l'OMS, c'est: la santé est un état de complet bien-être physique, mentale et sociale et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Donc ça veut bien dire que si je veux prendre l'alimentation comme un critère de santé, c'est très bien, mais ça va être aussi pour tout un bien-être général. Mmh. Hein, d'accord ? Donc pas juste je tombe pas malade au final.
Tout à fait.
Hein, donc ça, c'est important de le rappeler. Après, pourquoi c'est une préoccupation ? C'est qu'on pense que souvent qu'on a un budget limité pour l'alimentation. Je vais me sentir un petit peu dans la privation. Je vais me dire, bah tiens, je peux pas choisir ce que je veux ou j'aimerais manger ça et je peux pas. Alors, est-ce que je peux réellement pas ? Est-ce que c'est pas dans mes habitudes ? C'est un petit peu ce qu'on va essayer de détailler dans ce podcast-là. Mais il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, si on regarde un petit peu les chiffres des études, et c'est pas moi qui le dis, on estime que en moyenne par personne, il faut entre 130 et 150 euros par mois pour pouvoir manger équilibré et que c'est faisable. Et qu'en dessous, effectivement, on est plutôt dans l'insécurité alimentaire où on ne pourra peut-être pas manger équilibré de façon complètement optimale. Mmh. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de solution. Ce qui voudra dire qu'il y a peut-être des jours où mes repas seront peut-être un petit peu plus pauvres que d'habitude. Mais en tout cas, je vais quand même être toujours ne jamais oublier qu'on est maître de ses achats et que je vais pouvoir limiter la casse, quoi qu'il arrive, même si mon budget est petit. Et on estime que vraiment aujourd'hui, les personnes qui sont en réelle insécurité, surtout en ce moment, c'est les étudiants, beaucoup, qui vont être limités dans leur budget. Les personnes âgées à faibles ressources et souvent isolées. Mmh. Et les adultes qui vont être dans une insécurité globale, donc sociale, alimentaire, familiale, etc. Et là, il va y avoir un réel problème. Je rappelle quand même pour les personnes qui écoutent qu'en France, on a la chance au niveau alimentation. On a aussi des solutions. Il y a quand même des réseaux d'aide alimentaire quand vraiment on ne peut pas faire autrement et que je sais que c'est pas facile de passer le cap. Moi-même, j'ai travaillé longtemps dans ce type de structure. C'est difficile de passer le cap, mais qu'une fois qu'on l'a passé, on se rend compte que ça peut nous soulager sur notre budget, justement, pour pouvoir manger correctement et manger plus sainement. En sachant que dans l'aide alimentaire aujourd'hui, on n'est plus dans l'idée des paniers où on vous donne et vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Maintenant, on essaye de plus en plus pour la dignité des personnes, le respect du choix des personnes, etc. Elles peuvent choisir aussi leur alimentation. Mmh. Donc ça, c'est important de le rappeler aussi.
Mais c'est important de le dire, puisque c'est vrai que si on fait un petit focus sur toi, je sais que tu ne comptais pas le faire, mais je le fais quand même, c'est que toi, tu es diététicienne nutritionniste, mais que tu n'as jamais été finalement, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, diététicienne nutritionniste en cabinet où tu voyais des patients pour, je ne sais pas moi, tu sais, comme on voit toujours là, l'été, pour aller perdre du poids l'été. Toi, tu as beaucoup travaillé et des années en banque alimentaire.
Oui.
Et dans... Et un hôpital psychiatrique aussi. Donc, tu as un autre point de vue. Et c'est vrai que je te demandais de venir pour parler alimentation et budget, parce que quelque part, toi, ça fait des années que tu travaillais avec des personnes en situation plutôt de précarité.
Oui, exactement. Mmh. Donc, des personnes soit en précarité, soit dans des difficultés actuelles, comme ça peut tous nous arriver. Donc effectivement, pour faire le petit focus sur Karine...
Merci de le faire, ça intéressera beaucoup je pense.
Alors moi c'est vrai que j'ai toujours trouvé mon métier passionnant, donc du coup j'ai voulu travailler dans plusieurs secteurs, parce qu'il y avait plusieurs secteurs qui m'intéressaient, en tant que diététicien on peut travailler dans différents secteurs. Moi je me suis assez spécialisée donc auprès des publics précaires, auprès de la psychiatrie beaucoup, et après tout ce qui était acte de prévention ou de formation. Donc j'ai travaillé longtemps dans un hôpital psychiatrique que j'ai quitté il n'y a pas très très longtemps, où là je faisais plutôt du thérapeutique et des projets de soins institutionnels. Donc là, j'étais plutôt en contact avec des patients. Au milieu de l'aide alimentaire, donc là, j'intervenais auprès d'associations d'aide alimentaire pour pouvoir permettre à des personnes de leur donner des pistes pour mieux s'alimenter. Donc ça pouvait être sous forme d'ateliers cuisine, sous forme de tables rondes, sous forme d'informations. Il y avait plusieurs aspects. Et après, j'ai fait des formations auprès de cuisiniers de restauration collective. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? J'ai fait pas mal après de petites missions. J'intervenais aussi à la maison d'arrêt pour pouvoir faire des sensibilisations dans le cadre de journées bien-être.
Tu avais travaillé aussi pour les étudiants.
J'ai travaillé aussi auprès d'une structure sur un projet qui a duré 3 ans sur l'insertion à domicile. Donc voilà, sur plusieurs. Moi, je suis plutôt dans le médico-social. Et le cabinet, ça ne m'intéressait pas franchement parce que déjà, j'étais très isolée et moi, j'ai besoin de contact. Et puis en plus de ça... j'avais pas envie d'être confrontée à certaines choses. Donc du coup, moi, j'ai préféré le milieu hospitalier et la psychiatrie. C'était un domaine qui m'intéressait beaucoup. Donc je me suis beaucoup formée à la psychonutrition et beaucoup aux psychopathologies, pour à l'addictologie aussi, pour pouvoir intervenir dans ce genre de structure.
Super. Et d'ailleurs, petite info, la plupart des recettes, beaucoup de recettes qui sont sur notre chaîne YouTube, que vous avez vues plein de fois, on le dit à chaque fois, mais on dit toujours, ça vient de notre sœur diététicienne nutritionniste. Pour vous, c'était, oui, c'est une diététicienne. Mais pour nous, c'était des recettes que Karine nous proposait, mais qu'elle proposait aussi aux participants des ateliers cuisine que tu faisais, d'ailleurs auxquels j'ai participé. Marisa aussi est déjà venue te voir, il me semble, participer à un atelier. Et c'était hyper intéressant de voir avec ce qu'on a pu te donner en banque alimentaire, ce que tu pouvais proposer de quand même relativement sain et d'équilibré pour un public qui n'avait pas les possibilités d'acheter eux-mêmes leurs propres produits. Et ça, je le rappelle parce que c'est vrai que très souvent, on le dit dans nos vidéos YouTube, ça c'est une recette de Karine, c'est une recette de Karine. Ça veut dire, c'est une recette que Karine nous a donnée d'un atelier cuisine et qui, généralement, a plu. Parce que très souvent, d'ailleurs, tu me disais, quand tu t'arrivais avec, je sais pas moi, ta tarte brocoli-sardine, on te regardait en mode... Pourquoi on a mangé ça? Et tout le monde te disait à la fin, mais c'est trop bon, merci, etc. Donc voilà, c'est la petite parenthèse pour vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai voulu parler du budget avec Karine, parce que quand même, elle est diététicienne, certes, mais elle a été quand même beaucoup aussi au contact de public. Alors, je dis pas que les personnes qui nous écoutent sont dans des publics de grande précarité, et on ne parlera pas de grande précarité de toute façon aujourd'hui. On va parler... De toute façon, on ne peut pas parler de tout le monde, ce n'est pas possible. On pourrait peut-être faire plein d'autres épisodes pour tel ou tel type de personnes. Mais là, on va parler plutôt, on va dire, en globalité, on va dire limite la moyenne française. Quoi.
Exactement, c'est puisque ça. C'est la majorité quand c'est même. Hein, Alors, c'est vrai qu'on a tendance à croire, c'est vrai que le fossé se creuse aujourd'hui. Mmh. Et c'est vrai qu'on vit peut-être une transition au niveau social et au niveau sociétal même. Mmh. Hein, mais on va plutôt s'attarder effectivement sur la classe moyenne comme nous et la vraie vie finalement qui représente la majorité de personnes. Mmh. Hein, donc, c'est okay. Ça qui est important.
Super. Alors... Est-ce que j'ai une question, Karine, ou est-ce que tu veux enchaîner?
Disons que ce que j'aimerais quand même préciser, c'est que qu'est-ce qui fait qu'on se pose la question « j'ai pas assez de budget pour manger équilibré ». Il y a plusieurs petites précisions. C'est qu'aujourd'hui, on est dans un monde où on va vite, où on a de l'offre alimentaire partout, où on a la sensation de moins contrôler les choses. Mais finalement, j'espère qu'à la fin de ce podcast, c'est juste se dire qu'on peut être maître et de son budget et de son alimentation saine et qu'on peut très bien les mettre ensemble en tant qu'amis et pas en tant qu'ennemis et que donc du coup il va falloir revoir des petites choses dans notre vision en fait de l'alimentation et de l'offre aussi beaucoup, puisque comme je le répète souvent, parce que moi c'est quelque chose qui m'effare, c'est vrai que c'est pour ça aussi que j'ai pas pris un circuit de diététicienne ordinaire, c'est qu'il y a plein de choses qui me dépassent, alors autant dans les pratiques de la diététique actuelle qui est pour moi un peu arriérée, j'ai envie de dire, et de l'autre côté, toute cette offre alimentaire qui me dépasse complètement, qui crée des soucis de santé, qui crée énormément de dégâts dans la tête parce que les gens ont l'impression d'être privés en se disant ça je peux pas l'acheter, ça je peux pas l'acheter, mais du coup c'est des choses qui m'interpellent. Donc on va essayer de se pencher un petit peu là-dessus. Et ce que j'aimerais qu'on revoie aussi, c'est de voir que l'alimentation adaptée telle qu'on l'imagine et telle qu'elle est réellement, c'est-à-dire tout simplement de l'équilibre alimentaire. Hein, et il n'y a pas une seule façon de s'alimenter de façon équilibrée, il y en a plein. Et qu'on va mettre en confrontation avec l'offre alimentaire moderne qui ne correspond pas du tout à une alimentation équilibrée. Je pense que la première question à se poser dans son panier, dans sa façon de faire ses courses, c'est déjà celle-là. Est-ce que je suis bien en accord avec moi-même dans ce que j'estime être l'alimentation adaptée et ce que j'achète réellement? Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que si on essaie de préciser un petit peu ce qui se passe, c'est que quelque part, il y a plein de choses qui nous échappent. Le marketing, c'est une grosse discipline, voire une science pour moi. Je suis effarée et limite estomaquée de voir ce qu'on arrive à faire avec le cerveau humain, rien qu'en le stimulant. En le stimulant par des packagings, en le stimulant par des conditionnements, en le stimulant par des publicités, en le stimulant avec des images, avec des mots, des odeurs. Hein, la fameuse boulangerie où on met un diffuseur de pâtisserie pour que quand tu passes devant, ça sente bon. Et moi, ça me dépasse. Et quelque part, ça nous dépasse aussi, parce qu'on est tous humains. Il ne faut pas croire, parce qu'on est diète, on n'est pas sensible non plus à ça. En revanche, on va essayer de les éviter, ces stimuli. Mais en tout cas, ça fonctionne, puisque les personnes achètent.
Mais en même temps, je comprends, puisque moi, tu vois, je ne savais même pas qu'on diffusait. C'est toi qui me l'avais dit. Moi, je ne savais pas.
Je citerai pas le nom.
Non, mais je sais. Mais moi, je ne savais pas. Donc, moi, en tant que cliente lambda, maintenant que tu me l'as dit, maintenant, je ne me fais plus avoir. Mais en tant que cliente lambda, je suis dans la rue, je sens ça. Bien sûr que j'ai juste envie. Et en fait, ça m'a créé une envie. C'est-à-dire que je peux être dans la rue, on est en famille, et d'un coup, je vais dire, j'avais pas faim là actuellement, mais on s'arrêterait pas à prendre un croissant parce qu'ils m'ont appâté. Et je trouve en effet que c'est fou. Autant moi, je travaille dans le marketing, je vois un peu ce que c'est, mais à ce niveau-là, je trouve ça limite génial, mais dans le premier sens du terme, le côté, c'est très ingénieux.
C'est très ingénieux, très ingénieux. Et de toute façon, les personnes l'ont compris. Mmh. Mais ça marche aussi pour les réseaux sociaux. Mmh,
hein. Bien sûr.
Les réseaux sociaux, faut pas croire que ça a été juste mis comme ça pour mettre les gens en relation. Mmh. Hein, ça crée des choses au niveau de la dopamine, au niveau, ça devient très addictif. Mmh. On peut plus s'en passer quelque part. Mais dans l'alimentation, c'est la même chose. Et c'est pour ça que ce podcast, je le trouve très intéressant, parce que c'est vraiment d'arriver à se dire, faut que je sois en cohérence avec ce que je veux, avec ce que ma conception de l'équilibre alimentaire et ma conception de mon budget dans mon alimentation. Et c'est ça qui va faire la différence. Par contre, si je suis complètement perdue là-dedans et que j'ai perdu mon bon sens quelque part pour moi, en fait, de ce qui peut me faire du bien et de ce que je veux en équilibre alimentaire pour ma santé globale, ça, si je le perds, là, on peut rien faire au niveau de son budget parce que ça va être des budgets qui vont dépasser ce qui va être adapté, en fait. Donc ça, je trouve que c'est important de le rappeler. Et j'espère justement que ça vous fera réfléchir là-dessus. Moi, c'est ce qui m'importe dans ma pratique, c'est vraiment de retrouver le bon sens. C'est pas de dire mange ci, mange ça. Non, c'est de retrouver le bon sens, d'amener les gens petit à petit à être bien dans leur choix, en fait. C'est ça qui est important.
Et à être autonome dans leur choix.
Complètement.
Ne pas être autonome dans leur choix, que ce soit, par exemple, le marketing, se dire, est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que ça me rendra plus heureux? Encore une fois, peut-être aussi, est-ce que ce morceau-là, ce pot de Nutella me rendra plus heureux là et dans ma santé globale?
Mais parfois, il faut être averti aussi. Si je ne sais pas tout ça, parce que je vais encore vous détailler des petites choses, mais si je ne sais pas tout ça, je peux estimer juste que le marketing, c'est juste fait pour être joli, pour me faire du bien, pour répondre à un plaisir. Oui, c'est fait pour ça, mais c'est pour qu'on achète. Moi, je dis souvent, les industriels, ils ne sont pas là pour votre santé. N'oubliez jamais ça. Les industriels, ils sont là pour faire du business. Donc, le but du jeu, c'est que vous achetiez, qu'ils créent des dividendes à la fin de l'année. Donc, il n'y a pas de secret là-dedans. Ça ne veut pas dire que tous les industriels font des mauvais produits. Ce n'est pas du tout ça. Mais en attendant, des fois, on achète même peut-être un produit qui est bon et on n'en a pas forcément besoin. Donc, c'est ça qu'il faut voir.
Ok, voilà, c'est tout notre travail aussi sur la plateforme, c'est justement de rendre nos membres autonomes et aussi de leur faire prendre conscience, leur ramener peut-être aussi le bon sens, parce que parfois on l'a perdu. Hein, bien sûr que je l'ai perdu à un moment donné dans ma vie, le bon sens de manger des choses saines, parce que voilà, la vie. Ramener le bon sens, ramener l'autonomie et faire donner des prises de conscience. Comme tu disais, j'espère que l'épisode là va donner des prises de conscience. En fait, c'est un peu tout notre but ici, sur ce podcast, sur YouTube, mais également sur la plateforme. Grâce à toi, Karine.
Mais on nous a complètement aussi perdu là-dedans.
Bien sûr.
Hein, parce qu'on y met, on y met du flou, on met sans arrêt des contradictions. Donc, on va mettre la contradiction, manger 5 fruits et légumes. Qu'est-ce que ça veut même dire? Alors, manger 5 fruits et légumes, mais à côté de ça, manger des barres chocolatées, des céréales du petit déjeuner qui vont être soi-disant bons pour votre enfant et on le voit courir au milieu du champ. Donc, quelque part, on nous perd aussi là-dedans. Et l'idée, je pense qu'on est allé trop loin là-dedans. Et c'est juste de revenir à des choses simples, vraiment de revenir à des choses toutes simples. Mais ça demande aussi certains changements parfois. Et il faut être juste prêt à ces changements-là. Donc, on va essayer.
C'est ça. Mais on est là pour les accompagner, en tout cas, dans ces changements. Donc, pour revenir, parce que là, on s'égare toutes les 5 secondes.
Mais
en même temps, c'est ça, on est trop bavarde. Mais c'est comme ça, faut s'y faire. Les podcasts ici, c'est comme ça. Ça peut durer une heure et demie. Qu'est-ce qui fait, du coup, selon toi, que le budget, on le dépasse, alors que de base, on souhaite manger équilibré, mais finalement, quand on arrive à la caisse, on se dit, on a dépassé le budget alors qu'on était pourtant dans l'optique de manger équilibré.
Alors, il y a beaucoup de critères. Il y en a un déjà, on a de plus en plus de mal à lutter contre la frustration. Ou du moins, c'est même pas ça, je vais mieux formuler. On se crée des fausses frustrations, en fait. C'est-à-dire que je vais passer devant quelque chose. Regarde, tout à l'heure, on en parlait, on est allé faire les courses. On va rarement dans une grande surface. Puis d'un seul coup, on est sollicité de partout. Il y a de la lumière, on me montre les produits sucrés. et je vais passer à côté, alors que dans l'idée, quand je suis rentrée dans le magasin, c'est pas du tout ça que je voulais, mais là, je vais créer quelque chose, et ben, je vais dire, tiens, je l'achète, et ben, du coup, voilà, je me crée pas une frustration, je l'achète directement, je réfléchis plus à ça. Donc ça, c'est un des critères, déjà. Un autre critère, c'est que manger équilibré, si j'en ai pas l'habitude, si j'ai pas cette démarche-là depuis longtemps ou qu'on me l'a pas apprise, hein, tout simplement, les transmissions familiales, c'est extrêmement important, ben, je vais prendre ça comme une contrainte. Une contrainte, ça va devoir changer mes habitudes. Donc, ben, dans l'idéal, intellectuellement, j'aimerais pouvoir manger équilibré, mais finalement, ben, je reste dans ce flot et puis ben, ça me crée un malaise un petit peu au fond de moi. Donc ça aussi, c'est un peu des fois gênant. L'autre chose aussi, c'est ce qu'on remarque, c'est que les personnes font de moins en moins de repas maison.
C'est vrai.
Et ça, on aura beau dire, on aura beau faire, les repas maison, c'est ce qui coûtera toujours le moins cher. Donc, ne pas faire ces repas maison, ça peut être un frein aussi. Et on a des fois l'impression de ne pas acheter cher le produit. Si vous regardez au kilo le produit, parfois, ça va augmenter le prix par rapport à si je l'avais fait maison au kilo. Et si mon produit est vraiment pas très cher, parce que là, j'ai acheté ça, c'était 1,50€, je ne sais pas moi, la barquette de pâte bolognaise. Pour 1,50€, 2 kilos de pâte bolognaise, je voudrais savoir ce qu'il y a dedans. Donc, il n'y a pas 36 mesures. C'est soit mon produit, il va être nutritionnellement, en termes d'ingrédients, pas très sympa, soit le prix au kilo va être cher. Et tout à l'heure, tu as parlé du Nutella. Je vous invite à regarder le prix au kilo du Nutella. Parce que souvent, vous achetez des pots de 200 grammes, même si c'est le gros pot. Vous seriez surpris, c'est très cher au kilo, très très cher. Donc le repas fait maison restera l'idéal pour maîtriser son budget.
Donc c'est celui qu'on prône, je pense, depuis des années, faites maison. Mais à chaque fois, c'est vrai qu'on a beaucoup d'abonnés qui vont nous dire « mais j'ai pas le temps, c'est long ». Et puis comme tu dis, la transmission familiale est importante et beaucoup de parents, par exemple, notre mère nous a appris à faire à manger. Enfin, moi, j'ai toujours vu maman plus ou moins à la cuisine, mais il y a beaucoup de personnes qui disent moi j'ai jamais vu ma mère cuisiner. Comme par exemple mon conjoint Mathieu n'a pas vraiment beaucoup vu sa mère cuisiner. Et du coup pour eux, faire maison, c'est la grand-mère quand elle faisait se lever à 6h du matin et qu'elle faisait un gros repas, ça mijotait pendant des heures. Et du coup je pense qu'on a perdu encore une fois, on va redire le mot, le bon sens, que le fait maison peut être quelque chose d'hyper simple et de facile, mais pour beaucoup de personnes, le fait maison, c'est compliqué. Donc, il sera toujours préférable d'aller chercher les pâtes bolo toutes faites que se dire on peut faire nos pâtes bolo maison, qui viendraient moins cher. En plus, c'est même pas cher les pâtes bolo pour le coup.
Et le repas maison, c'est la base de l'équilibre alimentaire. C'est une des bases.
Parce que,
on maîtrise ce qu'on met dedans déjà. Et on n'a pas la même satisfaction aussi d'avoir cuisiné quelque chose que de l'avaler très vite, en fait. Donc, c'est pas du tout
complètement
pareil.
D'accord. Par exemple, moi, j'adore les madeleines. Tu sais, les madeleines industrielles. Bon, je dois en manger une fois par an, mais j'adore ça. Du coup, quand j'en achète, mais moi, je peux manger le paquet. Hein, parce qu'en même temps, je ne l'ai pas fait. Ça se mâche très facilement, c'est mou. Je peux manger le paquet. Quand je fais mes madeleines maison, je vais me poser, je vais les manger, tu sais, en mode... je vais déguster ma madeleine que j'ai faite moi et je suis en plus fière et je veux que ça dure un petit peu dans le temps. Et donc, c'est sûr qu'on voit bien la différence entre un équilibre alimentaire où quand je fais maison, je prends mon temps pour le manger, je vais l'apprécier et j'en mangeais par exemple une. Alors quand je vais acheter industriel, tu peux être sûre que je peux manger le paquet toute seule et même pas je me pose, hein, je mange debout à mon évier.
Bien sûr, ben oui, c'est pas du tout la même chose. Pour revenir à ta question, qu'est-ce qui peut être un frein justement à économiser un peu sur son budget ou en termes d'alimentation? Les personnes souvent ont l'impression que on n'a plus de temps ni rien, et c'est vrai que de faire ses achats, c'est aussi une organisation. Donc du coup, pour certains, ça peut être une contrainte, de les courses, tout simplement. On va aller à un endroit et puis on prend ça. Ça va vouloir dire aussi revoir des habitudes. Aujourd'hui, on voit énormément de personnes qui boivent pas d'eau. C'est la seule boisson indispensable, hein, je le rappelle. Donc, les sodas, les jus de fruits, tout ça, ça a un coût aussi. De même pour tout ce qui est sucrerie, les friandises, tout ce qui est pas indispensable à l'équilibre alimentaire. Tout ça, si vous regardez, encore une fois, regardez le prix au kilo surtout, vous allez être surpris. Tout ça, ça coûte cher, mine de rien. Et mis bout à bout, même si mon paquet de gâteaux, j'ai l'impression il coûte que 1,50€ ou 2€, si je fais dans la semaine, dans le mois et sur l'année ce que ça représente, ça peut représenter un sacré budget pour les personnes qui ont l'habitude. De même, les plats préparés, etc. Et d'acheter beaucoup aussi. Parce que souvent, les personnes souvent qui disent avoir des problèmes au niveau du budget alimentaire ont beaucoup de stock à la maison. Et le stock à la maison, c'est de la trésorerie dans les placards et de la trésorerie sur les étagères. Donc parfois, c'est peut-être aussi revoir comment on fait ses courses, justement. Donc ça, c'est intéressant. L'autre frein, c'est le lieu de course par rapport au stimuli que j'ai dit tout à l'heure. Dans un lieu de course, mais regardez la taille des rayons, la taille... on va pour acheter un camembert, on ressort avec trois fromages. On va pour acheter un paquet de, je sais pas moi, de pain de mie, puis on ressort avec des petits pains suédois, des biscottes en plus. Mais parce que voilà, ça nous donne envie, en fait. Donc l'envie, elle peut être bien en fonction de ce que je veux y mettre dans mon équilibre alimentaire, mais elle peut être traître parfois sur juste l'aspect plaisir, parce que ça va stimuler des zones qui vont faire dire « Allez, vas-y, achète, c'est pas grave, ça va être bien. »
En plus, toi, tu nous avais dit, parce qu'on avait préparé l'épisode, tu m'avais dit... De toute façon, quand tu vas dans un magasin, un supermarché, quand on rentre dedans, on voit bien qu'il n'y a que... Enfin, en grosse majorité, de l'industriel, des couleurs très vives, du packaging, en plus beaucoup, bon, ça on pourrait y revenir, mais et beaucoup de plastique, etc. Et finalement, si on se met au milieu de son supermarché, où est la part de, par exemple, je sais pas, de fruits et légumes ? Finalement, elle est ridiculement petite.
Au prorata, oui.
C'est incroyable. Et moi, je m'étais jamais fait la réflexion. Et une fois, j'y suis allée, je me suis mise au milieu, je me suis dit, ah oui, en fait, là, on m'appelle pour plein de choses qui ne sont même pas utiles finalement dans mon équilibre alimentaire et dans ma santé. Mais ce qui est utile pour moi serait par exemple les fruits et légumes ou les produits bruts, hein, tout simplement, qui sont en minorité dans tous ces mètres carrés de supermarché.
Et ils sont où, les fruits et légumes ? Quand tu rentres dans tous les supermarchés.
Ils sont au fond du magasin.
Ils sont au fond du magasin. Mmh. Du coup, pour aller jusqu'au fond du magasin, les fruits et légumes, il faut passer par tous les rayons. Donc ça aussi, c'est du marketing. Il faut savoir que dans une grande surface... Mmh. Alors, on n'en est pas encore comme aux États-Unis, hein, parce qu'il faut savoir qu'aux États-Unis, ils ont légèrement fait des pentes dans certains rayons, parce que ça donne le sens un peu
incroyable.
Ça va très loin. Quand vous allez dans un magasin, il y a un sens pour aller dans le magasin. Mmh. On passe d'abord par ce qui est non alimentaire, toujours. Mmh. Ça aussi, ça a un coût. On a l'impression que c'est notre budget course alimentaire, mais non, ça a un coût. Et puis ensuite, je vais passer peut-être par les habits ou tout ce qui n'est pas alimentaire.
Oui, c'est ça, ouais.
Je vais commencer par ce qui est non essentiel et ainsi de suite. Donc, je vais aller jusqu'au fond du magasin. Si j'ai besoin d'un kilo de pommes, je vais avoir toutes ces sollicitations. Et dans le rayon lui-même, il y a aussi un ordre. On ne met pas les produits là comme ça. Alors, il y a ce qui se négocie avec le fournisseur. Parce que où est-ce que vous allez me mettre dans votre rayon ? Donc tout ça, ça se négocie aussi financièrement. Il y a tout ce qui est marketing, donc tout ce qui est à hauteur des yeux. Ce qui est à hauteur des yeux, c'est ce qu'on va vouloir que vous achetiez. Hein, et plus ça va être à hauteur des yeux, plus ça va être soit les prix les moins avantageux, hein, et en fait les prix les plus bas vont être en bas de vos yeux, pas là forcément où vous allez regarder. Donc parfois, ça vaut le coup de aussi comparer les compositions des aliments, parce que vous allez vous rendre compte qu'un produit moins cher, il est en bas, alors qu'il a la même composition que celui qui est à hauteur de mes yeux, voire des fois même mieux. Donc ça, c'est des choses... Mais tout ça, ça demande du temps. Donc ça aussi, c'est un frein, parce que dans la tête des gens, comme on n'a plus le temps de rien, du coup, on va au plus vite et on prend... Posez-vous la question, est-ce que souvent, ça vous arrive dans un magasin de lever beaucoup les bras ou de vous baisser ?
Bah non.
Voilà. Donc c'est une bonne réflexion aussi. Donc ça, c'est des choses qui sont à regarder. Et c'est vrai que faire attention à soi, à sa santé... et donc peut-être faire attention à ce critère-là de santé qu'est l'alimentation, parfois c'est revoir un petit peu son temps parce qu'on a l'impression qu'on n'en a plus et ça c'est un frein à la bonne alimentation aussi. Hein, donc, et ça a un coût.
En fait, on n'a plus le temps, mais quelque part, on achète notre temps. On dépense ce temps dans des choses qui coûtent plus cher en fait.
En pensant faire vite.
En pensant faire vite, ouais.
C'est un frein à l'adaptation de l'équilibre alimentaire par rapport à la gestion de son budget, hein, le temps. Ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup. L'autre frein aussi majeur, c'est tout ce qui est croyances. Alors, les croyances que j'ai sur l'alimentation, les convictions qu'on m'a données par ma transmission familiale, les convictions que j'ai par rapport au temps, etc. Tout ça, ça va modifier aussi mon équilibre alimentaire et me faire acheter des choses peut-être qui ne sont pas forcément utiles ou dont j'ai réellement besoin. Mais après, chacun a sa définition du besoin. Y a des personnes qui, pour elles, un paquet de gâteaux ou un paquet de biscuits, c'est un besoin. Donc, c'est peut-être... Voilà, toutes ces convictions à revoir. Qu'est-ce que je veux mettre dans mon équilibre alimentaire ? Quels sont mes réels besoins ? Quelle définition je veux y mettre ? Quel budget je veux mettre ? Parce que depuis tout à l'heure, on parle alimentation. Mais quel budget je veux mettre dans mon alimentation ? Ou quel budget je peux me permettre dans mon alimentation ? Et vous allez voir que quand on commence à décrire ça, tout de suite, déjà, ça va beaucoup mieux parce qu'on est plus soulagé par rapport à ça. Donc voilà ce que je peux dire un petit peu des freins en fait par rapport au budget et alimentation.
Donc je pense qu'il y a beaucoup qui se reconnaîtront parce que moi je me suis reconnue quand même dans quelques freins. Même si le temps, non. Hein. Moi, j'aime prendre le temps, moi, pour bien manger. Quels seraient tes conseils qu'on pourrait mettre en pratique pour avoir un budget alimentation un minimum maîtrisé et qu'on ne se le trouve pas avec des tickets de caisse abracadabrant alors qu'en plus, on pourrait faire moins?
Alors, je vais parler que de par expérience, des patients ou des participants que j'ai vus avec qui j'ai pas mal travaillé ça. Je vais rien révolutionner du tout parce que je pense que pour la plupart, vous avez entendu ces conseils-là, mais je pense que c'est important de les rappeler puisque finalement, c'est des choses que majoritairement les gens ne font pas, même quand on en parle en fait. La première chose, c'est d'étudier son budget global, toujours. C'est-à-dire, je regarde combien je gagne, je regarde mes dépenses incompressibles, mon loyer, mes impôts si j'en ai, mon électricité, etc. Et je regarde ce qu'il me reste. Et je regarde dans ce reste, qu'est-ce que je veux consacrer à l'alimentation. Et c'est avec ça que je vais me débrouiller, en fait. Et souvent, on se rend compte, quand on le fait avec les personnes, qu'elles ne s'imaginaient pas qu'elles avaient tant de reste à vivre, en fait. Qu'elles pensaient que... Parce que, en fait, on fait... La carte bleue, c'est hyper facile. Hein. C'est un peu comme ce qu'on disait sur le marketing. Ça se dégaine très rapidement, une carte bleue. Donc, tiens, un petit truc par-ci, un petit truc par-là. Mais on n'a pas forcément la notion du budget dans tout ce qu'on veut mettre, dans mon enveloppe alimentation, mon enveloppe essence de la voiture, dans mon enveloppe loisir, dans mon enveloppe activité sportive, dans mon enveloppe invitation, cadeau. On a plusieurs petits budgets comme ça dans l'année, mais c'est bien de le connaître déjà ce budget. Et beaucoup, beaucoup de gens ne connaissent pas quand on leur demande au niveau du budget, est-ce que ça va pour l'alimentation? Est-ce que vous pouvez me donner un ordre d'idée? Parce que nous, on va orienter aussi nos conseils en fonction du budget de la personne. Donc du coup, plein de gens ne savent pas quel est leur budget alimentaire, qu'est-ce qu'ils doivent dédier ou peuvent dédier ou ont envie de dédier en budget alimentaire mensuel.
Donc là, conseil pratique, allez imprimer vos 3 derniers relevés bancaires et vous regardez quelles sont vos dépenses incompressibles. C'est ce que j'ai fait, moi je vous l'ai dit, au mois de janvier. J'ai regardé combien je dépensais sur tout ce que je ne peux pas maîtriser, hein, donc le loyer, en effet, l'eau, etc. Et après, quand j'ai vu ce qui me restait, je me suis dit, en fait, il reste quand même pas mal pour manger sainement. Mais encore une fois, tout dépend parce que les personnes qui vont voir, je sais pas moi, il reste à la fin, je dis au pif 400 euros. 400 euros, c'est un bon budget. Imagine si on est deux avec un enfant, par exemple. C'est plutôt pas mal. Sauf qu'il y en a beaucoup qui vont aussi se dire, j'ai 400 euros de budget restant, la part d'alimentation, ça va être par exemple, je ne sais pas moi, 150 euros, et le reste, je vais le mettre dans des loisirs ou dans des, je sais pas moi, des marques un peu luxe, entre guillemets. Et c'est peut-être là aussi à regarder qu'est-ce qu'on dépense en loisirs. Est-ce que c'est utile parfois ou est-ce que c'est juste un accessoire?
Ce qu'on se rend compte aujourd'hui, c'est que la plupart des gens vont sacrifier le budget alimentaire.
C'est vrai.
Du coup, ils vont trouver cher, oui, parce qu'après, quand il n'y a plus de sous ou qu'on se dit, là, c'est la fin du mois. Alors que si je le maîtrise et je me dis, semaine, même un couple avec un enfant, par semaine, je dépense 40 ou 50 euros, ils vont se rendre compte que oui, c'est facile et que peut-être l'autre semaine, ils vont en dépenser peut-être 60, mais la semaine d'après 30. Mais en tout cas, je sais que sur mon budget global, en moyenne, je vais dépenser, 40 ou 50 euros par semaine. Ça peut être largement faisable. Mais souvent, les personnes ne le maîtrisent pas, ça. Donc du coup, ils vont sacrifier le budget alimentaire. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve énormément. Et du coup, on va se diriger plus facilement vers des produits industriels, des choses toutes faites, qui au final vont me paraître moins chères sur le coût. Mais donc, je reviens à mes prix au kilo, vont être plus chers que si je l'avais fait maison. Et puis parfois, on constate aussi des petits désordres alimentaires. Donc ça, c'est important. L'autre chose qui va être très, très importante, ça va être la liste de courses. Si je ne fais pas de liste de courses et je vais dans un magasin, si on revient aux sollicitations de tout à l'heure qui peut être un frein justement à ça, je vais avoir tendance à m'éparpiller. Donc la liste de courses, ça va être très importante avec soit j'ai l'habitude, j'ai établi mes menus de la semaine et je fais en fonction de mes menus et ce qui me reste à la maison. Toujours regarder ses placards avant de faire sa liste de courses pour ne pas racheter ce qu'on a déjà. Alors soit j'ai établi mon menu pour la semaine, puis je me rends compte, je vais dire une bêtise, j'ai prévu de faire des pois cassés, mais en fait j'ai des haricots rouges. Peut-être que je vais modifier ma recette en me disant, on va d'abord finir les haricots rouges et puis les pois cassés, je les ferai une autre fois. Ça va m'éviter d'acheter encore quelque chose de supplémentaire. Donc je vais regarder mes placards. Soit je ne fais pas de menu, mais auquel cas je m'imagine un petit peu ben, ce que je vais manger dans la semaine. Soit des personnes comme moi, par exemple, où je vais acheter à peu près tout le temps la même chose, mais faire différentes recettes, ben, je sais à peu près les quantités qu'il me faut. Donc, on peut avoir plusieurs petits critères comme ça. Mais en tout cas, la liste de courses, elle est importante parce que ça va éviter d'acheter double plaquette de beurre, d'autres litres de lait, trois paquets de pâtes. Voilà, donc je regarde ce que j'ai dans mes placards et puis je fais en fonction. Et en fonction de mon budget aussi, du coup. Donc ça, autre conseil. Et je vais adapter aussi en fonction de la composition du foyer, du coup, par rapport aux quantités. Parce que parfois, ben, on est deux, on achète trop. On est trois, on achète trop. Donc voilà, je vais adapter en fonction des quantités. Hein, ça va être très important. Choisir ses lieux de course. Si je sais que je suis très sensible aux sollicitations, je vais éviter d'aller dans des très, très grandes surfaces. Ben, je vais plutôt choisir une petite surface ou faire un drive comme tu fais. Ça, je trouve que c'est vrai que c'est un bon moyen pour les personnes. Je vais acheter que l'essentiel et je vais pas me sentir frustrée en me disant... parce que des fois, ça, on s'inflige, on s'autoflagelle quelque part en se disant... Ah mais voilà, j'aurais voulu acheter ça, j'ai pas acheté ça. Alors que si vous aviez fait le drive, vous y auriez pas pensé en fait.
Mais moi je trouve le drive est magique. Tu vois, je l'ai fait hier rapidement avant que t'arrives aujourd'hui. Et moi je trouve ça super parce que moi j'écris. Il y a le truc recherche et tu écris ce que tu veux. Donc quand je vais écrire beurre, bah il va y avoir plein de beurre différents, certes. Mais bon, c'est dans ce que j'ai choisi moi. Du coup moi je ne vois jamais quand je vais sur le drive, je ne vois pas ni Nutella. Ni de produits industriels ultra transformés, puisque je ne l'ai pas tapé. Et encore une fois, du coup, c'est moi qui suis responsable de ce que je vais acheter. Est-ce que si j'allais au magasin tous les 4 matins, je serais aussi responsable ? Peut-être un peu moins.
C'est pas dit. Franchement, c'est pas dit. Que, ouais, justement, c'est un très bon exemple que tu donnes, parce qu'effectivement, t'as pas cette sollicitation. Non. On n'a pas créé en toi l'envie d'acheter. La grande surface, c'est ce qu'elle fait. Elle va créer en vous.
C'est ça.
Au-delà de votre liste de courses, parfois, de ce dont vous avez besoin. Donc, l'intérêt, c'est de bien se connaître et de se dire « Ah non, mais quand je vais à tel endroit, mon ticket de caisse, il est aberrant, alors que quand je vais là... » Donc, bien choisir son lieu de course, ça, c'est important. Voir les petits marchés qu'on a aussi autour de nous, parce que dans les grandes surfaces, souvent, c'est des plus grosses quantités parfois que ce dont on a besoin. Je prends quelqu'un qui est tout seul ou qui est en couple. Si on regarde la taille des fromages ou parfois les quantités qu'on peut acheter, si je vais au marché, je vais pouvoir demander la quantité vraiment dont j'ai besoin et peut-être la réduire. Donc ça, c'est pas mal. Je vais plus pouvoir acheter à l'unité. Si j'ai besoin de 3 pommes, je prends 3 pommes. Alors vous allez me dire, dans les grandes surfaces, il y en a, mais ça sera pas la même qualité que mon petit producteur ou mon petit marché. Donc ça, c'est intéressant pour avoir peu de tentations en fait. Et si vous voulez continuer à aller en grande surface, choisir des plus petites surfaces ou des discounts parfois, comme le Lidl ou des choses comme ça. Il y a beaucoup moins de tentations. Donc ça peut être aussi, ça peut faire baisser le ticket. Je pense aussi aux applications qu'il y a maintenant, notamment s'il y a des étudiants qui nous écoutent, comme les Too Good To Go. Et je sais qu'il y a d'autres applications qui font ce principe. Mais c'est pas mal parce qu'on peut choisir aussi le magasin où on a envie d'avoir un panier. Et ça peut être intéressant pour baisser aussi son budget. Donc ça, c'est intéressant, je trouve, dans les nouvelles choses. L'autre chose aussi, l'inconvénient des grandes surfaces, c'est tout ce qu'on va trouver hors saison. Les produits d'import. Tous ces légumes et fruits qui viennent d'ailleurs, qui sont pas de saison, est-ce qu'aussi c'est vraiment de la qualité? Est-ce que le prix est juste et justifié? Alors moi, la nouvelle tendance, justement, c'est tous ces fruits et légumes coupés, emballés dans des barquettes en plastique, des fruits et légumes qui sont coupés, qui perdent beaucoup en plus nutritionnellement, parce qu'ils vont rester là quelques temps, ils sont au froid, ils sont découverts, ils sont à la lumière. Voilà, faire attention à ces petits pièges. Et là aussi, le prix est faramineux. Quand on voit le prix, c'est impressionnant.
Si Karine, elle dit ça, c'est parce que il y a quelques jours, je vous ai demandé sur Instagram, avant de faire cet épisode, de nous envoyer votre ticket de caisse des courses que vous avez fait dernièrement. J'ai fait ça un samedi, donc je pense que c'était le ticket de course de la journée, parce qu'on est tous très nombreux à faire ces courses le samedi ou le week-end en tout cas. Et on les a analysés juste avant d'appuyer sur on. On a analysé, c'est un bien grand mot, mais on a regardé un petit peu tous les tickets de caisse que j'ai reçus, ce qui a permis aussi de faire une trame à cet épisode. Et en effet, dans les tickets de caisse, est beaucoup revenu les produits hors saison, donc les produits d'import, avec des prix bizarrement, qui peuvent parfois être très bas, donc c'est tentant, mais finalement, c'est pas non plus dans l'équilibre alimentaire, on va dire, acheter des framboises au mois de mars, c'est pas l'idéal.
Et à quel prix
Et à quel prix? Pas le prix, genre ça coûte 10 euros, non. Au contraire, en plus, c'est que c'est peu cher, mais il vient quand même de loin, ce produit. Et on a vu, en effet, et moi, c'est un truc que j'achète jamais, donc j'ai même pas compris quand j'avais vu sur le ticket, c'est Karine qui me l'a dit, parce que j'aurais jamais compris que c'était ça, c'était écrit mangue, fruits coupés, alors que moi, bêtement, j'ai cru que c'était des surgelés. Donc moi, je savais pas pourquoi Karine faisait des gros yeux à côté de moi. Je disais, bah, c'est des fruits surgelés, c'est bien les fruits surgelés. Et en fait, elle me dit, mais non, c'est les fruits qui sont déjà prédécoupés, mais au rayon frais. Mm. Et moi, j'oublie toujours ce truc parce que je ne les vois pas. Mais c'est vrai que c'est hyper tendance. Mm. Ça fait combien de temps à peu près? J'ai l'impression que ça fait 3-4 ans.
Hein, ouais, je dirais pas plus de 5 années, ouais, ouais, que c'est vraiment sorti.
Et ça devient, en plus, ça prend beaucoup de place sur les rayons. Il y a la noix de coco coupée en morceaux, les brocolis coupés en morceaux, les carottes coupées en morceaux, dans des petites quantités.
C'est très cher.
On a vu qu'une, enfin, y a pas de jugement. C'est vrai qu'on l'a vu dans le dans un ticket de caisse et on s'est dit, ça coûtait combien? Ça coûtait 6 euros la barquette.
Je sais plus, mais c'était
dans le ticket
cher.
De caisse,
ouais,
6 euros la barquette de mangue. En plus, c'est des petites quantités. Mm. Donc, c'est pour une personne, limite. 6 euros. Là, c'est des choses qu'on peut réduire facilement de son budget, ça.
Effectivement, ça, là, on est vraiment juste là pour donner des conseils. Oui. Hein, et voilà, si ça peut vous éclairer, c'est tant mieux. Mais c'est vrai que toutes ces petites choses, ça fait gonfler. Ouais. Mis bout à bout, ça fait gonfler le. Bah, tiens, je passe dans le rayon biscuits, je prends un paquet de gâteaux. Bah, tiens, là, c'est les jus de fruits. Oui, parce qu'on parle toujours des gâteaux et tout ça. Mais il y a les jus de fruits. Je rappelle, c'est une boisson sucrée comme une autre, que j'achète du Coca ou du jus de fruits, même s'il est 100% pur jus, tout ce que vous voulez, ce n'est absolument pas l'équivalent d'un fruit, c'est une boisson sucrée au même titre que les autres. Et si je mets tout ça bout à bout sur mon ticket de caisse, comme on en a vu tout à l'heure, eh ben c'est vrai qu'à la fin, ça peut vite faire 10, 15, 20 euros, alors que sur le coup, quand je suis avec mon caddie et que je le prends unitairement, ça me paraît pas cher unitairement. Mais après, si j'additionne tout sur mon ticket de caisse où finalement j'en ai pas besoin, ou si j'ai envie de manger un gâteau, je le fais maison, ça me coûtera forcément moins cher. Les eaux aussi, on a vu pas mal d'eau minérale, d'eau gazeuse, etc. On est en France, l'eau du robinet, elle est extrêmement correcte, sauf certaines régions, mais il y en a très peu en France. Et là, les habitants sont prévenus. Faut arrêter de dire qu'on est complotiste dans tout. Non, la France est très vigilante au niveau sanitaire. On est même l'un des pays d'Europe les plus stricts. Donc, acheter de l'eau en bouteille, ça coûte très cher aussi. Et tout ça, ça a un coût dans le mois. Si on aime l'eau gazeuse, ça vaut peut-être le coup, là, pour le coup, de s'acheter une machine et faire son eau gazeuse soi-même. Parce que pour moi, dans l'alimentation équilibrée, parfois, ça va au-delà que simplement, moi, individuellement, d'avoir les nutriments qu'il me faut. C'est aussi tout l'aspect éthique. Et je pense que petit à petit, il faut qu'on arrive à ça, autant au niveau de l'emballage que du transport des aliments, que comment sont traités les humains aussi qui font ça. Si vous achetez, par exemple, moi, je sais pas, il y a beaucoup de produits espagnols au niveau maraîchage. Il faut savoir quand même que les humains qui travaillent derrière, c'est pas jojo. Donc, est-ce qu'on a envie de cautionner ça aussi? Quand je l'achète, ça veut dire que je suis acteur aussi aussi de ça. Donc, c'est aussi ça l'équilibre alimentaire. Qu'est-ce que je veux y mettre derrière aussi donc, et ça a un coût, forcément. Donc, je le paye. Pourquoi un concombre en plein hiver, il va pas être cher? Il va pas être cher dans une grande surface. Parce que dans une grande surface, il y a des centrales d'achat et qu'on négocie les prix en fonction des volumes qu'on va acheter. Et puis, plus j'achète des gros volumes, moins mon prix sera cher unitairement. Mais c'est pas pour vous faire plaisir. Parce qu'au final, la quantité, l'énorme quantité qu'ils auront sur tout le marché national, en définitive, va leur ramener beaucoup d'argent. Mais c'est aussi au détriment de l'agriculteur, de la personne qui a travaillé la terre derrière, et souvent des étrangers, voire des personnes en situation d'irrégularité de papier, etc., qu'on ne traite pas forcément bien, qui ne mangent pas eux-mêmes forcément à leur faim. Enfin voilà, ça veut dire aussi tout ça derrière, et je pense que c'est important de le rappeler dans l'aspect de l'équilibre, en fait. Encore une fois, on s'est égaré.
On s'égare, toujours.
Mais donc là, on en était donc sur nos petits conseils pratiques. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On a parlé du ticket, je vais vous parler aussi du ventre vide. Ne jamais, jamais faire les courses le ventre vide. Le ventre vide, on sait, et ça paraît, toutes les études le montrent, on a envie de plein de choses. Donc là, ça fait aussi beaucoup gonfler le ticket de caisse. Attention aux cartes de fidélité. On vous met des cartes de fidélité et on le voit de plus en plus. Moi, je suis effarée. Si vous achetez tel produit ou le deuxième produit ou le troisième, vous l'aurez à temps. Si vous achetez un deuxième produit, vous aurez tant de réductions sur votre prochain achat. Ça aussi, c'est du marketing. Donc, est-ce que ce deuxième produit, vous en avez réellement besoin? Et on vous titille parce qu'on sait que les gens se questionnent beaucoup sur leur budget alimentaire. Du coup, on va vous dire, je te fais une fleur. Si tu achètes le deuxième, tu l'auras à moitié prix. Mais ce deuxième, est-ce que j'en ai besoin? Parce que OK, je l'aurai à moitié prix. Alors, je prends un exemple. Le produit coûte 3 euros. Le prochain, il sera à 1,50 €. Donc, je vais l'acheter. Mais c'est 1,50 € là que vous avez dépensé en plus. Est-ce que ça aurait été pas plus utile ailleurs que ce produit qui va rester dans votre placard, donc de la trésorerie dans mon étagère ou dans mon placard?
C'est ça. D'ailleurs, ça me fait sourire parce que ça me fait penser à... Il y a eu à un moment donné une vague là sur YouTube d'influenceuses qui avaient été sponsorisées par une application où quand tu faisais tes courses, tu étais remboursée. Je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais je pense peut-être que tu connais. Tu scannais, tu rentrais, tu achetais tes produits, tu rentrais chez toi, tu scannais certains produits et on te le remboursait. Ou à moitié prix, un truc comme ça. Et beaucoup de youtubeuses ont fait des partenariats avec eux, que nous, on a refusé. Parce que, nous, ma question, c'était, est-ce que le produit, parce que c'était par rapport à une liste de produits existants. C'est pas, tu prends le produit que tu kiffes, je sais pas, ton flocon d'avoine bio complet, c'est pas celui-là qui m'était remboursé. Il fallait acheter, par exemple, tout ce qui était tu sais, chocolat, Nutella, typiquement, les Haribo, etc. Et les youtubeuses, quand elles faisaient la vidéo, elles disaient très souvent cette phrase: je ne comptais pas acheter ce produit, mais comme il m'est remboursé à 50%, bah je l'ai pris. Et moi, ça m'a toujours choquée, c'est un grand mot, choquée, mais quand même, ça m'a toujours choquée de me dire, bah, tu ne comptais pas l'acheter de base. Pourquoi tu l'as acheté? Parce que tu es remboursé 50%. Bah, c'est inutile, tu ne comptais pas l'acheter.
Donc, et c'est de l'argent dépensé.
C'est de l'argent qui est dépensé, même si c'est 50%.
Exactement.
Et du coup, c'est vrai qu'il y a eu cette vague, et je pense que vous, ces personnes qui m'entendent et savent de quelle appli je parle, qui a été très populaire à un moment donné, je ne sais pas si elle est encore populaire, mais nous, ils ont proposé ce partenariat parce qu'on fait beaucoup de retours de courses. Mais nous, avec Marzin, on se disait, mais pourquoi j'irais quelque chose, acheter quelque chose qui est déjà dans une liste établie? Donc tu vas dans le magasin avec ton application allumée, avec écrit voilà tous les produits qui vous seront remboursés, mais qui n'étaient même pas de base sur ma liste de courses.
Et de quelle qualité sont ces produits, j'ai envie de demander?
Ah bah c'est toujours les mêmes, hein. C'est toujours les mêmes produits.
Donc c'est ceux où on va, quand s'ils font une publicité télévisée, vont mettre manger 5 fruits et légumes. Mmh. Parce que ben ça, je rappelle hein, que c'est pour éviter de payer une taxe. Mmh. Voilà, on va mettre cette jolie phrase, voilà. Mais ça va pas être sur le kilo de poireaux ou le camembert.
Exactement.
Hein, donc voilà, ça c'est des questions à se poser quand même. Et ça, c'est purement du marketing parce qu'on va essayer de fidéliser des clients, parce que ben, ça, ce sont des boîtes hein, qui vont créer ça avec des marques. Mmh. Et puis le but du jeu, c'est d'un de vendre et de vous fidéliser aussi par rapport aux produits. Donc c'est pas pour vous, hein, c'est pas pour votre santé ou faire du bien au porte-monnaie.
C'est clair.
Donc
c'est ça, c'est de rappeler on achète ce dont on a besoin et pas on achète parce qu'il y a une promo en cours qui finalement nous. En plus, c'est toujours écrit tellement en énorme. Parfois, tu arrives dans le magasin, c'est écrit en énorme promo. On l'a vu avec les promos là qu'il y avait eu sur le Nutella qui avait fait tout
un tabac.
En soi, personne n'était allé pour un besoin primaire, un besoin de se nourrir, acheter du Nutella, personne n'y serait allé. Mais comme on nous dit, bah, le deuxième était offert, bah, on y court.
Mais ça, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'il y a toutes les promos, toutes les têtes de gondole. Alors, les têtes de gondole, je rappelle, c'est tout ce qu'il y a devant le rayon. Avant de rentrer dans le rayon, il y a des promos, des produits nouveaux, des choses comme ça. Et parfois, bah, les produits vendus en lot, en 2-3 exemplaires en lot, on vous dit « Ah là là, grosse promo !» Et si vous vous amusez, y a plein de fois, le produit va être plus cher au kilo là, dans la promo, que dans le rayon unitairement.
D'accord.
Ouais. Mais dans le lot, ça va vous paraître moins cher. Donc attention, les têtes de gondole, c'est le piège, vraiment. De même, quand vous arrivez aux caisses, quand on arrive aux caisses, c'est toutes les choses futiles qu'il va y avoir. Eh ben, on prend, et puis, comme tout à l'heure, je disais, 2 euros plus 2 euros plus 2 euros, ça fait vite 10, 15, 20 euros. Hein, et cumulé dans le mois, si je fais ça à chaque fois, en me disant, bon, allez, une petite bricole cette semaine... Non, il vaut mieux se faire plaisir avec un bon fromage ou un légume qui coûte peut-être un peu plus cher que les autres ou quoi. Mais quand même, je rappelle quand même qu'un kilo de viande coûtera toujours plus cher qu'un kilo de légumes. Parce que ça aussi, on n'en a pas parlé, mais la viande, c'est quelque chose qui fait énormément gonfler le prix du ticket. En sachant que la viande, on n'a pas besoin d'en manger 2 fois par jour. On n'est pas obligé d'en manger non plus tous les jours. On peut varier avec des œufs, avec une boîte de sardines, avec une boîte de maquereaux, avec un morceau de poisson en promo chez le poissonnier. On n'est pas obligé de manger de la viande. Et ça fait partie aussi des croyances un petit peu à lever. Mais la viande coûte très très cher. Et pour les personnes qui nous écoutent et qui mangent beaucoup de viande, ça plombe beaucoup le budget. Et ça, c'est plus dans les croyances que dans l'équilibre alimentaire, en fait. Parce que l'équilibre alimentaire, jamais ne dit vie de manger de la viande deux fois par jour. Alors, je parle bien sûr des gens qui n'ont pas de problème particulier. Il y a des personnes pour qui ça peut être le cas et c'est obligatoire. Et encore, quoique, c'est même plutôt rare. Mais en tout cas, pour quelqu'un de bien portant, lambda, et qui veut un équilibre alimentaire, surtout justement pour sa santé, on va lui dire mangez pas de la viande deux fois par jour. Hein, donc, et ça, c'est très cher. Donc, j'avais cherché d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, le prix moyen du kilo de viande. Le prix moyen du kilo de viande, c'est 11,40 €. Aucun fruit et légumes, aucun légume sec, aucun féculent, aucune matière grasse ne coûte ce prix-là. Donc, il y a des questions à se poser là-dessus.
C'est clair. Hein?
Donc, ça, c'est important là-dessus.
Mais c'est, tu le dis aussi parce que, encore une fois, on l'a vu sur les tickets de caisse. On a vu notamment un ticket de caisse. La personne qui me l'a envoyé m'a dit qu'ils étaient trois dans le foyer. Et le ticket de caisse était rempli de viande.
Viande, jambon, lardon. Ouais. Il y avait beaucoup de...
Beaucoup, et tu m'avais calculé, ça faisait à peu près 21 portions
oui.
pour trois personnes dans un foyer pour une semaine, ce qui est donc énorme. Ça veut donc dire qu'il y a donc bien deux repas avec de la viande. Et directement, tu m'as dit, là déjà, deux repas avec de la viande dans la journée, c'est déjà beaucoup. Et c'est ce qui aussi plombe le budget. De toute façon, moi, je l'ai vu du moment où j'ai arrêté de manger de la viande tous les jours. Mon budget a clairement diminué.
Ah bah oui, c'est sûr. Alors là, c'est vrai que dans les tickets, ce qui aurait été intéressant, et on n'a pas pensé, mais alors il y a la composition de la famille, mais c'est aussi le nombre de repas qu'on fait par jour à la maison. Parce que là, deux choses l'une. Soit effectivement, il y a quoi qu'il arrive à chaque repas, un peu de viande. Parce que quand j'ai calculé, ben, effectivement, il y avait ces 21 portions. Donc on pouvait se dire, comme il y avait beaucoup de jambon, beaucoup de lardons, qu'il y avait des knackis, des choses comme ça. On peut se dire que ben, le soir, il y avait toujours une petite part de protéines, même si elle était moins grande, peut-être que le midi. Mais ça aurait été intéressant de le savoir. Mais du coup, c'est pas des produits de bonne qualité, en plus, en grande surface. Mais sinon, l'autre idée, c'est soit il y a qu'un seul repas par jour à la maison, et auquel cas, bah, c'est de la viande le soir, et c'est pas ce qu'on va forcément recommander. Sachant que si on mange que le soir à la maison tous ensemble, bah, le midi, on a mangé ou au self, ou à la cantine, ou on s'est amené à manger, ou quoi. Et peut-être il y avait déjà une part de protéines animales dedans. Donc voilà, bien penser à la viande. Ça, c'est quelque chose qui coûte très cher et qui a beaucoup augmenté. En
mais plus, bon, ça, je le vois, parce que quand j'avais fait mon retour de course sur YouTube avec le budget 75 € par semaine en défi, j'avais reçu quand même pas mal de messages me disant « Oui, mais c'est facile pour toi de faire ce défi course à 75 € par semaine puisque tu ne manges pas de viande. » Et moi, ça m'avait interpellée parce que je voyais pas en quoi c'était facile pour moi, mais c'était parce que c'est un choix aussi de pas manger de viande tous les jours. Et ma réponse est plutôt « Bah, c'est peut-être aussi à votre tour d'essayer de réduire la viande et de voir... » Alors que pour elle, c'était tout de suite « Bah non, toi, c'est simple. » C'est facile d'avoir aussi peu de dépenses sur l'alimentaire parce que tu ne manges pas de viande. Parce que pour beaucoup, la viande, c'est la base de l'alimentation.
Et ça, c'est des choses qui sont à revoir. Parce que c'est vrai que si on se dit « vous dites qu'on peut manger équilibré avec un budget correct ou un budget moyen », ben non, moi j'y arrive pas, etc. Mais quelle définition on donne de l'alimentation équilibrée dans ce cas à soi, puisque dans l'alimentation équilibrée, jamais on dit de manger deux fois de la viande par jour. Donc c'est peut-être ça qui est à revoir. Après, chacun est libre et effectivement, si les personnes veulent continuer à manger deux fois par jour de la viande, moi je dis, moi tout se respecte. Après, ça, chacun fait comme il veut, mais il faut pas du coup s'étonner que le ticket moyen soit élevé. Donc ça, c'est vrai que ça plombe beaucoup, beaucoup le budget. L'autre chose qu'on peut dire, c'est aussi d'opter pour des produits plus bruts et de base. Parce que ça, on le dit pas assez, mais des choses vraiment, des œufs, des légumes, des fruits, les légumes comme vous voulez, surgelés, même en conserve si vous voulez, frais. Voilà, d'acheter des produits bruts que l'on va nous transformer. Parce que bah, déjà, ça va nous coûter moins cher, ça va être plus sain parce que je vais savoir ce que je mets dedans. Et en tout cas, je vais pouvoir faire des associations beaucoup moins chères que si je me sers que de choses semi-transformées ou beaucoup de viande. Parce que souvent, la viande, c'est aussi la facilité. Si par exemple, je prends une grillade, je vais faire une grillade, je vais me dire, bon allez, je fais un peu de pâte à côté et puis je mange un fruit en dessert. Oui, ça va aller vite. Mais en même temps, je sais pas, moi, si je fais une tarte salée à base de légumes et une salade à côté, ça va aller tout aussi vite finalement. C'est pas le temps de cuisson que ça va me prendre au four, parce que je m'occupe de rien, je vais le mettre au four. Donc parfois, le discours, mais ça c'est souvent parce qu'on est mal informé ou qu'on s'est pas posé, avoir réfléchi à la question en fait. C'est souvent ça l'idée, c'est pas forcément que les gens savent pas, c'est qu'ils ont pas fait le lien parfois entre plusieurs choses. Et donc ça c'est plutôt intéressant à le rappeler. L'autre chose qui coûte très très cher...
Juste une petite question, c'est quoi un produit brut versus un produit transformé?
Alors un produit brut, ça va être tout ce qu'on achète, soit que je vais avoir à le faire cuire, nature. Alors, je vais prendre, je sais pas, un paquet de pâtes, un paquet de riz, des pois cassés secs, par exemple, et un produit, tu m'as dit, pardon ?
Transformé.
Un produit transformé, ça, c'est le produit industriel prêt à l'emploi.
D'accord.
Si je prends, j'achète un paquet de biscuits, j'ai pas besoin de le faire cuire. Si j'achète
un cordon bleu, je réchauffe.
Voilà, je le réchauffe. Tout ça, ce sont des produits transformés, même ultra transformés pour certains, parce que le cordon bleu, ça, c'est très très transformé, puisque même la viande, c'est pas un filet, donc même le produit de base est déjà transformé, ultra transformé, ça. Okay. Hein, donc ça, c'est la différence sur les produits bruts.
Et c'est ce qui coûte de toute façon le moins cher,
oui.
Le produit brut, parce que nous, finalement, quand on va dans un supermarché, on ne voit quasiment que de l'ultra transformé ou du transformé. C'est ce qui nous attire, c'est ce qu'on va acheter. Mais en soi, les produits bruts, sur un ticket de caisse, ça coûte pas grand-chose.
Non.
Un paquet de pâtes, même complètes, parce qu'on va me dire, oui, mais toi, tu achètes du complet. Ben, en soi, ça coûte pas cher. Enfin, ça coûte pas énormément plus cher un paquet de pâtes de blé complet plutôt que, encore une fois, je reviens au pot Nutella.
Exactement, et puis voir le nombre de portions qu'on peut faire dedans.
Exactement.
Si je reprends l'exemple des cordons bleus, par exemple, peut-être que, c'est vrai, ceux de moins bonne qualité ne vont pas vous sembler chers à l'achat, mais combien vous avez de portions dedans, peut-être pour un repas. Un paquet ou même une boîte d'œufs, si je reprends l'équivalence du même groupe d'aliments, si je prends une boîte d'œufs de 12 œufs, qui plus est si je l'achète au marché, ou peut-être mes 12 œufs, je les aurais à 2,50€, 3€. Dedans, j'ai 6 portions quand même, donc c'est pas la même chose. Hein, donc c'est pour ça, il faut toujours faire le lien aussi entre le prix au kilo, ne pas se fier qu'au prix de l'achat direct, le prix au kilo, le nombre de portions que je vais avoir dedans, et est-ce que j'estime que pour moi c'est bon ou pas. Mais bon dans votre définition à vous, parce que c'est peut-être pas la même que la mienne. Hein, donc ça c'est important de se le dire. Revoir les quantités aussi, c'est quelque chose qu'on dit pas, mais aujourd'hui en 2021, on sait tous, et ça, tous les scientifiques, tous les chercheurs, tout le monde vous dira, on mange beaucoup trop en quantité par rapport à nos besoins. Nos quantités ont énormément augmenté. Alors, si en plus, je surajoute encore à ces quantités, peut-être que ça aussi, dans le budget, ça plombe. Parce que si je mange au-delà de ma faim, tout ça, ça va être que du surplus. Et mis bout à bout, ça fait aussi du budget supplémentaire. C'est bête à dire, mais c'est une réalité. Donc parfois, peut-être aussi, sans penser forcément au départ à l'équilibre alimentaire, est-ce que les quantités que je consomme, elles me sont adaptées ? Est-ce que je mange au-delà de ma faim à chaque fois ? Je me sens rassasiée, mais je continue de manger. Parce que là, tout ça, c'est du surplus.
Parce qu'on en a, en fait, c'est du surplus finalement dans le budget, mais c'est aussi du surplus dans notre santé.
Aussi. Du coup, je réponds à aucun des critères. Je veux m'alimenter bien à un moindre budget.
C'est ça. Et ça, c'est hyper intéressant parce que ça, on en parle beaucoup sur la plateforme Intention, de savoir aussi s'écouter. Et par exemple, savoir les quantités. Alors, on ne dit pas les quantités par personne, combien il faut que
ça n'existe pas.
On n'en parlera pas. Mais tu donnes suffisamment d'infos pour qu'on sache qu'en fait, on mange beaucoup trop.
Oui.
Et moi, depuis que je suis sur la plateforme... Mais je me suis rendu compte qu'en effet, même moi qui pensais, tu vois, manger... en plus, on me dit très souvent, en plus, sur YouTube, on me dit « Oh, toi, tu manges vraiment pas assez. » On me le dit très souvent. Tes assiettes, elles sont vraiment ridicules. Elles sont toutes petites. Ah bon ? Parce que moi, déjà, je mangeais trop sur les vidéos d'il y a 3-4 ans. Je mange... C'est pas que je mange moins, c'est que je mange aussi peut-être mieux et que je m'écoute plus. Et
la
que
composition n'est pas la même.
La composition n'est pas la même, mais surtout, je mange mieux aussi depuis Intention. Par exemple, quand tu nous avais parlé de la mastication, de pas manger en 5 secondes chrono, ça fait aussi que un meal prep maintenant, c'est drôle, me dure plus longtemps qu'il y a quelques semaines ou quelques mois. Parce que on a fait tout le travail sur la plateforme. Donc, c'est juste pour rappeler que... Et là, on vous donne des conseils que vous pouvez mettre en pratique, limite quand vous sortez de l'épisode. Mais il y a aussi tout un travail derrière de réappropriation. Et c'est à ça aussi qu'on vous aide sur la plateforme. C'est, comme on l'a dit au début, c'est vous aider à vous accompagner dans tous ces petits conseils. Parce que là, on vous dit ça, que vous allez vous dire, mais oui, mais du coup, j'aimerais savoir ça. On parlait tout à l'heure de manger un peu plus végétarien. Je sais très bien que c'est le genre de choses qui va vous faire poser des questions, mais ça veut dire quoi? Parce que moi, on m'a dit que si je mangeais pas de viande, j'allais être carencée en protéines, le truc le plus entendu.
Mais attention, parce que même dans des produits végétaux, l'industrie a fait des dégâts aussi. Donc attention, ça veut pas dire aussi que je mange que des steaks végétaux, la compo est bonne ou que le prix au kilo est pas cher.
C'est clair. Donc, mais toutes ces questions-là, par exemple sur la viande, etc., c'est des questions dont on parle longuement sur la plateforme. Donc si ça peut vous intéresser, bah, sachez qu'on est là en tout cas pour vous accompagner en plus de ce podcast qui est en libre antenne. Mmh.
Mais de toute façon, c'est pas le plus difficile de donner des conseils. Et c'est vraiment d'accompagner les personnes, parce que le plus difficile, mais pour tout le monde, quel qu'il soit, nous les premières, c'est changer ses habitudes.
C'est ça.
Essayer de changer une habitude, c'est compliqué. Donc si je veux tout prendre de front, ça va pas. Par contre, dire ce qu'il faut faire, c'est pas compliqué ça. Donc c'est l'accompagnement, oui, effectivement, qui est plus difficile. On en était où ? Oui, sur nos petits conseils. Du coup, autre chose qui coûte très cher et qui est un mal du siècle, ce sont les grignotages. Tout ce que je mange en dehors de mon repas, qui ne va pas être souvent bon pour ma santé, et quoique, même si je mange des paquets d'amandes à longueur de journée ou des choses comme ça, ça aussi, c'est un coût dans le budget. Donc ça, on revient un petit peu aux habitudes alimentaires. Les grignotages aujourd'hui, moi, dans ma pratique, je l'ai vu quand je détaillais avec des personnes, c'est une grosse part de budget. Et je vais vous donner une anecdote. Mon plus gros budget chez un patient, c'était 1,5 litre de coca par jour. Du coup, on a calculé ensemble ce que ça représentait sur une semaine. Donc, je vous laisse faire le calcul. 1,5 fois 7 jours, ce que ça représente. Et ce que ça représente sur le mois, fois 4 semaines. Et ça a été un élément déclencheur pour lui. Alors, on n'a pas réduit du jour au lendemain, mais voilà, petit à petit, s'enlever un petit peu cette habitude jusqu'à ce qu'elle ait disparu. Donc, ça a mis à peu près un an pour que ça disparaisse. C'était un gros budget. Et ce qu'on avait convenu, c'était que ce budget-là, il le mettait dans une cagnotte parce que ça permettait de visualiser en fait ce que ça représentait. Et au bout d'un an, alors, je vous passe toutes les étapes parce que c'est compliqué de se déshabituer de nos habitudes alimentaires, surtout quand elles sont ancrées comme ça, et encore plus sur des produits sucrés. Et ben ça lui a fait l'année d'après, quand on s'est revu au bout de 6 mois, et ben ces 6 mois là où il a mis de l'argent de côté, ben ça a fait une petite cagnotte. Et ça, c'est des choses, on s'en rend pas compte aussi.
C'est vrai.
Et la consommation incessante de soda, de jus de fruits, etc., on a l'impression que ça s'avale encore plus vite, que c'est de l'hydratation, mais ça n'en est pas, et ça impacte notre budget, effectivement.
Oui, et même tu disais les gâteaux, etc. Moi, je vois pas mal, quand je vois des retours de courses sur YouTube, je vois beaucoup... j'ai fait tout... Voilà, je vous ai montré un petit peu mon menu de la semaine. Et là, voilà, mais les goûters. Et tu vois plein de tartelettes, de biscuits. Et tu te dis, mais en fait, ça plombe tellement le budget. En plus, beaucoup vont aussi acheter ça pour les goûters des enfants. C'est en avril qu'on parlera sur la plateforme du goûter et donc aussi le goûter des enfants, parce que Karine est très, 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 très à cheval aussi
Sur l'intérêt.
Sur l'intérêt du goûter, mais des enfants aussi.
Ouais. Alors, on en a alimentaire. Parlé peu, je pense, parce que c'est vrai que l'objectif d'intention, c'est quand même plutôt les adultes, parce que les enfants, ils n'ont pas trop le choix un petit peu, mais en tout cas, ça pouvait guider les parents. Et vous avez posé une question à ce sujet-là, donc j'y ai répondu. Mais moi, c'est vrai que même quand mon fils était petit, moi j'étais toujours effarée de voir ce qu'il y avait dans le sac du goûter des enfants. Ça allait de la charcuterie, des biscuits à gogo, des... Alors, on a pensé longtemps, moi aussi, avant que j'apprenne certaines choses, que je m'y intéresse et que je me penche dessus. C'est vrai, c'est une solution de facilité, c'est simple. Et puis en plus, on y a mis maintenant un caractère social dedans. C'est compliqué de dire à un enfant, quand tous ses petits copains ont des biscuits, que lui, il va aller avec son petit sandwich et sa barre de chocolat noir, tu vois. Donc, il y a tout ce paramètre-là à prendre en compte, et c'est tout un discours. Et parfois, des petites actions, même auprès des parents ou à l'école. Moi, je me souviens, dans une des classes, on s'était dit avec des parents, pourquoi on proposerait pas amener le goûter les parents une fois chacun à tour de rôle dans la semaine. Ça permettait d'avoir des choses un petit peu plus intéressantes, parce que sinon c'était un conflit permanent aussi avec les enfants. Mais moi, franchement, j'ai vu de tout dans les goûters, et c'est vrai que tout ça, ça a un coût. Et en plus, pour le coup, ça c'est vrai, c'est pas bon pour la santé. Ça, on pourra dire ce qu'on veut, parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup d'alimentation intuitive, de choses comme ça, et on va vous dire que l'aliment industriel, il fait pas de mal. Alors oui, s'il est très ponctuel, votre corps, il va pas s'en rendre compte. En revanche, quand c'est tous les jours ou que c'est plusieurs fois par semaine, il faut bien qu'il en fasse quelque chose, lui, de tout ça. Donc c'est vrai que sur le goûter, il y a un gros travail à faire. Et ça, parfois, quand on fait aussi avec les familles, tiens, voyons le goûter. Alors souvent, il y a les briques de jus de fruits, il y a les... comment on appelle ça ? Les biscuits fourrés.
Oui. Les laits, tu sais, les laits aromatisés.
Les laits aromatisés. Mais moi, j'en ai acheté pour Corentin aussi, parce que je pensais que c'était... comme il adorait le lait, je me dis, tiens, c'est pratique. Puis jusqu'à un jour où je me suis penchée sur la compo et je me suis dit, il va partir avec sa gourde de lait et ça sera très bien. Mais il y a aussi tout ce qui est viennoiserie industrielle, là.
Oui,
amusez-vous à regarder les compositions. Et c'est pareil, le prix au kilo pour ce que vous avez dans la compo, c'est quand même cher. Donc c'est vrai que le goûter, ça peut être très simple et ça peut très vite plomber le budget en plus, si on n'y fait pas attention. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Oui, de penser peut-être aussi plus aux plats économiques. On ne parle pas assez des légumes secs, à mon sens, et ce sont des plats très économiques et nutritionnellement très intéressants. Donc penser à des plats complets, à des quiches, à des tartes salées, gratins. Des gratins. Tout ça sont des choses pas chères qui sont extrêmement bien pour l'équilibre alimentaire. On peut tout à fait le mettre en parallèle, et de même de penser à congeler des préparations. Parce qu'on parlait tout à l'heure d'un des freins aussi sur économiser un peu sur son budget alimentaire. On parlait du temps, dire ouais, on n'a pas le temps. Justement, quand vous le cuisinez, mettez-vous quelques portions au congèle, et puis comme ça, vous avez des plats tout prêts maison. Finalement, on a tous des soirs de flemme, on a tous, des fois, on est un peu patraque, ou quand on fait des journées où on parle toute la journée. Enfin, moi, je sais que ça m'est arrivé aussi dans ma pratique, quand on a des métiers où on parle toute la journée, où il faut se déplacer, il faut porter du poids pour des ateliers, faut être disponible pour les gens, donc on reçoit beaucoup et puis on reste à disposition. Le soir, des fois, on n'a pas envie de cuisiner. Un petit plat tout prêt au congélateur, où il y a juste à le remettre à la casserole pour le décongeler ou au four, c'est bien pratique. Mais ça, on peut le faire maison aussi. Je pense que j'ai fait à peu près le tour des pistes sur le budget. Je ne sais pas si peut-être tu as d'autres idées.
Non, c'était hyper complet. Mais en fait, ce que je me rends compte là, c'est que l'alimentation et budget, ça peut aller de pair. Même si beaucoup pensent qu'on ne peut pas manger sainement quand on a un budget, on va dire, moyen. J'ai juste une petite question, parce que ça revient beaucoup aussi. Parce qu'on me dit, oui, mais on ne peut pas manger sainement quand on ne mange pas bio.
Ah, alors ne pas confondre. Alors là, le bio, c'est encore,
On pourrait faire tout un épisode, mais juste
épisode
une petite,
sur le bio.
Parce que c'est vrai que ça revient tout le temps dans mes commentaires. C'est oui, c'est facile à dire, mais on peut pas manger sainement quand on mange pas bio.
Alors déjà, est-ce que manger sainement, c'est forcément manger bio, pardon?
Pas pour moi.
Pas pour toi.
Pas du tout.
Il est vrai, aujourd'hui, c'est reconnu que tout ce qui est végétal, les fruits, les légumes, les céréales, etc., c'est mieux de les manger bio parce que c'est tout un principe de traitement, en fait. Et que du coup, on sait aujourd'hui qu'effectivement, de consommer des insecticides, des pesticides, etc., ça a un impact sur notre santé. Ça, c'est évident. Mais même si on ne mange pas bio, de toute façon, j'ai envie de dire, on va en respirer dans l'air, parce que quand on met tous ces produits dans des grands champs, le vent les porte aussi. Ça c'est encore une autre histoire. Mais est-ce qu'on est obligé de manger bio? Pas forcément. Moi, je vous invite vraiment déjà à aller sur le marché, à regarder les producteurs autour de vous, à les questionner sur leurs pratiques, comment ils font, parce qu'il y a énormément de producteurs qui n'ont pas le label bio pour des raisons de coûts, de cahier des charges, etc., mais qui en fait font du bio et font des cultives. Amusez-vous même à aller les rencontrer si vous le souhaitez. Mais on peut tout à fait manger sainement sans manger bio. Et j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, la priorité dans ce que nous, on voit sur le terrain, avant même de manger bio, ça serait mieux, effectivement, ça, il faut être clair là-dessus. Mais avant même de manger bio, c'est revoir l'équilibre de notre alimentation. Ça va être pour moi la priorité avant de manger bio. On peut tout à fait manger équilibré sans manger bio. Ça, c'est clair là-dessus.
Et merci pour cette réponse, parce que je suis complètement d'accord.
Et je rajouterais, parce que j'ai eu la question il n'y a pas longtemps, d'une amie à moi. Ses enfants sont fans de pâte à tartiner. Et donc, du coup, elle me dit, super, là, j'ai trouvé elle est trop bonne dans un magasin bio. Qu'est-ce que t'en penses? Je lui dis, mais pâte à tartiner bio ou Nutella, même combat. Enfin, je veux dire, à la base, c'est pas un produit indispensable dans notre alimentation, c'est un produit plaisir, donc de temps en temps. De deux, tu dis qu'il est sans huile de palme, mais avec la tonne d'huile qu'il y a dedans, je pense pas que ce soit forcément adapté. Et c'est pas parce que c'est bio que c'est forcément bon pour ma santé. Il y a plein de produits aujourd'hui, amusez-vous, ça aussi dans les magasins bio, quand on fait le tour, des produits qui viennent de l'autre bout du monde. Moi, l'autre fois, je rentre dans mon magasin bio, je vois un légume qui vient pas du tout d'ici, mais du Pérou. Moi, ça me fait mal dans un magasin bio, je suis désolée de le dire, mais donc... Attention, le bio, ça, c'est très bien, effectivement, mais le bio que vous achetez peut-être plus local ou dans certains magasins spécialisés, etc. Mais si vous ne pouvez pas, c'est peut-être pas la première priorité pour l'instant. Donc attention à ça, c'est pas de ne pas s'auto-flageller avec ça, surtout. Ouais.
Non, c'est bien parce que c'est vrai que c'est un... c'est vraiment la question qui revient tout le temps. Je suis là. Ah oui, c'est vrai que pour beaucoup, c'est ça. C'est si je mange bio, si j'achète en effet la pâte à tartiner, si j'achète.
Elle a autant de sucre.
Les trucs. Tu sais, les préparations genre simili carné. Tu sais, les préparations qui ressemblent aux escalopes.
Ouais.
Des escalopes, ça ne dit même pas escalopes, mais des panés, je ne sais pas quoi, végétaux, là. Quand tu regardes en magasin bio, bah, y a autant aussi d'additifs.
Exactement.
Il y a des additifs bio.
Exactement. Donc, c'est pour ça, le bio... Oui, les fruits et les légumes, c'est ce qu'on devrait consommer bio de base. Après, dans toutes les filières qu'il y a, les filières industrielles, etc., il y a des fois, ben, on est un peu sceptique aussi, ou en tout cas de la provenance, ou en tout cas de l'éthique qu'il y a derrière. Savoir pourquoi on veut manger bio aussi. Hein, je reviens sur l'histoire d'éthique. Enfin, c'est vrai que pour moi, c'est important dans l'alimentation d'être en cohérence avec ses idées aussi. Et puis parfois, ben, quand on peut vraiment pas, parce qu'il y a peut-être des personnes qui nous écoutent et qui, pour le coup, ont vraiment des réels budgets restreints au niveau alimentaire, on reste sur des conseils de base. Et ben mon légume, si là je peux m'acheter qu'un légume en bocal industriel déjà cuit, alors, je sais pas, des haricots verts par exemple, ben vaudra mieux que je mange ça plutôt que des lasagnes industrielles. Hein, donc faut toujours peser ce qu'on appelle toujours dans le médical le bénéfice et le risque, toujours peser ça d'abord avant de se dire ben voilà, je mange pas bio, je mange pas bien, non. Vraiment se remettre à soi sur ce qu'on est. Et même si j'ai un petit budget, il y a plein d'astuces pour cuisiner sainement avec des petits budgets, vraiment.
C'est super parce que on a fait des quelques retours de retours de courses bio, etc., mais c'est plus pour montrer des choses sympas qui changent. Mais c'est pas quelque chose qu'on fait régulièrement. Nous, c'est vrai que nos e-books, la chaîne YouTube, finalement, c'est des repas petit budget, puisque en même temps, la plupart aussi viennent de toi, Karine. Donc, on l'a. Sur la plateforme, toutes les recettes qu'on propose, enfin, que tu proposes, des recettes qui sont petit budget, c'est pas des recettes. Enfin, quand je dis petit budget, ça veut pas dire non plus 20 centimes, hein, mais ça veut dire dans une moyenne, c'est des recettes qui sont toujours petit budget. Donc, finalement, manger sainement, en plus, on le voit sur la plateforme, c'est accessible.
Ouais.
C'est quelque chose de. Mais c'est vrai que si on revient à ce que tu disais, c'est à nous finalement de revenir aux bases. C'est quoi l'équilibre alimentaire? Et en fait, on en revient toujours au même truc. C'est quoi l'équilibre alimentaire? Et en fait, peu de personnes le savent. On est perdu. Nous, on ne le sait pas de nos jours avec justement les industriels, les réseaux sociaux, le marketing.
Et l'offre. Il y a énormément. Moi, l'alimentaire, je suis effarée. L'offre est vraiment énorme.
Donc
et
savoir
l'équilibre alimentaire. Et moi, qu'est-ce que je veux y mettre dedans? On n'est pas forcé. Enfin, je veux dire, libre à chacun. Moi, c'est vrai que moi, je suis là pour diffuser de l'information, conseiller des gens, aider des personnes, écouter aussi. Nous, dans notre métier, c'est aussi beaucoup d'écoute. C'est aussi beaucoup de réassurance, de choses comme ça. Mais moi, j'estime que chacun est libre. Mais par contre, après, il faut assumer derrière ces choix qu'on veut faire. Il n'y a pas de secret. Hein. Je veux dire, quand je dois m'acheter une voiture, ben, je vais réfléchir, est-ce que je veux m'acheter une Peugeot, une Mercedes, une BM, une Porsche? Ben, l'alimentation, ça va être un peu pareil. Est-ce que je veux plutôt rester simple? Est-ce que je veux plutôt être plus élevé? Est-ce que j'ai envie de manger industriel? Chacun est complètement libre. Après, le tout, vous avez les infos. Après, on en fait ce qu'on en veut. Hein. Ça, c'est important.
Bon, ben, super. Je pense qu'on va s'arrêter là parce que le podcast, il est plutôt pas mal long, 1h10, c'est très bien. J'espère que ça vous aura intéressé. Karine, qui était donc avec moi, qui nous a donné tellement de conseils. Pour rappel, non, je pense qu'on ne l'a pas dit encore. Je pense qu'on ne l'a pas dit dans ce podcast, Karine, dans cet épisode. Faut que j'arrête de dire podcast. Marisa, elle me déteste quand je dis dans ce podcast. Épisode de podcast. Les portes d'intention, donc de la plateforme intention, réouvrent le 1er avril. Donc, on espère que ce petit épisode, enfin ce long épisode du coup, vous aura donné des petites pistes déjà que vous pouvez mettre en place aujourd'hui, demain, après-demain. De toute façon, il n'y a pas de précipitation. Comme on dit toujours sur la plateforme, chacun va à son rythme. Il n'y a pas de jugement de oui, mais il faut que je le fasse en un mois. Il faut que j'ai tout compris sur l'équilibre alimentaire. Il faut que j'ai tout compris sur comment on mange sainement. Non, c'est parfois un travail sur plusieurs mois, plusieurs années.
Un changement d'habitude, c'est toujours très long.
Voilà, un changement d'habitude.
Quel qu'il soit, hein, alimentaire ou autre, c'est très long.
Donc là, en tout cas, nous, on est là pour vous y accompagner, que ce soit un mois, deux mois, trois mois, six mois, plus, si vous le souhaitez, sur la plateforme Intention. Et bien sûr, Karine, c'est notre experte. Donc, tout ce que vous avez entendu là, c'est vrai que c'est des choses qu'on a déjà aussi pu entendre sur la plateforme en un peu plus résumé. Voilà. Donc, merci Karine.
Avec plaisir.
Et on se dit à très vite pour un nouvel épisode. À plus.
À bientôt.